J'étais même pas dans le band dans le temps. Je m'occupais de rouler les fils à 3-4h30 du matin.
4800 pages de scénario par année. Il y a personne qui écrit ça sur la planète, là.
Ce qu'ils m'ont dit, c'est que t'as été très chanceuse. Toi, t'es censée être morte.
Dans mon cas à moi, c'est tellement la vie qui dit « Bon, champion, on va se parler. Tu veux pas m'écouter si ça t'intéresse? »
Sans fil. Mon invité est l'entrepreneur ex-dragon Serge Beauchemin. Bonjour Serge.
Bonjour,
merci
Isabelle.
D'être là.
Avec plaisir.
Toujours très occupé à faire la promotion de l'entrepreneuriat au Québec. Hein. Je pense que c'est dans ton ADN. Tu as commencé tout jeune, à 22 ans, tu as décidé de démarrer ta propre entreprise avec 40 $ apparemment.
Exactement.
Quasiment la moitié de l'épicerie de François, notre ami François, ex-dragon lui aussi.
Tout à fait. Avec, écoutez, 40 $ 3 cartes de crédit, un chum qui avait les mêmes conditions financières ou à peu près. Donc, beaucoup de courage, beaucoup d'audace et un bon timing, je pense, parce que ça fait partie de l'équation d'affaires.
C'est une entreprise en informatique, c'est ça?
Oui, c'est une entreprise qui vendait à l'époque des logiciels. Donc, c'était le démarrage de cette industrie qu'on connaît aujourd'hui, qui occupe à peu près toutes les fonctions de la sphère économique. Là. Mais au début, on parle des années 87, donc ouais. C'était le départ là, de l'informatique. Et le logiciel était ce que je pensais, à vous, puis j'ai eu raison, était la denrée importante de l'équation informatique.
Et qu'on appelle le software,
exact.
Dans le fond.
Et je me disais, ben, c'est ça qui va dominer l'industrie de la technologie un jour. À l'époque, c'était plutôt le hardware. Là. C'était les plateformes hardware. Et ben, j'ai eu raison. Ce sont les logiciels qui ont été la principale préoccupation.
Puis toi, tu avais développé quoi?
Rien. J'ai rien développé. En fait, je vendais ni plus ni moins les logiciels des autres. Donc, ce que je faisais, c'est j'achetais à gauche des logiciels. En fait, mieux que ça. Je vendais à gauche des logiciels que j'achetais à droite. Alors, d'abord, j'allais dire au client, écoute, je peux t'avoir n'importe quel logiciel. Tu cherches quelque chose, je peux l'avoir pour toi. On vend tout ce que les autres vendent pas. Et donc, on se faisait appeler pour toutes sortes d'affaires bizarres. Puis de l'autre côté, on prenait la commande au départ. On dit, OK, tu veux acheter ça, t'en veux 5, c'est parfait, laisse-moi te trouver le meilleur prix. Puis là, on partait, on allait acheter, on trouvait le meilleur prix possible.
C'était comme un courtier de logiciel,
comme
finalement.
Un courtier.
Tu prenais ta cote au passage.
Exactement, je prenais ma cote au passage.
Après, qu'est-ce que tu as fait avec cette entreprise-là?
Ben, écoute, cette entreprise-là a duré 17 ans. Donc, ouais. On est parti avec trois claques, un soulier, puis deux cartes de crédit. Et ça a roulé pendant 17 ans, cette affaire-là. Ça a eu des bureaux un peu partout au Québec, au Canada. Donc, on avait des bureaux Montréal, Québec. Sur la rive sud, le siège social était sur la rive sud. On était à Ottawa, Toronto, Calgary. On faisait 75 millions de chiffres d'affaires qu'on a vendus.
Ça s'appelait 3Soft?
Ça s'appelait 3Soft ou 3Soft en français.
Pourquoi 3? Ouais.
Parce qu'on était 3 gars quand on a imaginé le nom de l'entreprise, un peu jeune, puis on n'avait pas très fort en marketing dans ce temps-là. Fait qu'on s'est dit, on va appeler ça 3Soft. Quand on aura de l'argent, on paiera quelqu'un qui est brillant puis qui va nous trouver un logo et un nom qui a du bon sens. Mais évidemment, quand tu commences à être connu, ben, c'est plus le temps de changer le nom parce que tout le monde connaît le nom. Alors, on a inventé toutes sortes d'histoires pour justifier le mot 3. Plutôt que de dire qu'on était 3 clowns, on dit, c'est parce qu'on fait vente, service, formation,
prix,
distribution. En tout cas, il y avait toujours 3 attributs à notre compagnie qui étaient le pur fruit de l'imagination.
Puis là, vous l'avez vendu?
Oui, on l'a vendu. J'ai vendu l'entreprise en 2005, en fait, début de l'année 2005. Donc, si vous faites le calcul, ça fait 15 ans. Alors, on a vendu l'entreprise en 2005. Et depuis, ben moi, j'ai eu... c'était un passage difficile pour moi, personnellement. Je dois te confier que l'entreprise a été vendue le 15 février 2005. J'ai eu 40 ans le 21 janvier, donc quelques semaines avant. Vous savez, le passage de la quarantaine, toujours ébranlant un petit peu. Et mon cocon familial, merci. Alors, mon cocon familial était composé de ma mère et mon jeune frère, puis ma mère est décédée dans mes bras le 25 janvier. Alors, donc, ma mère a décidé qu'elle poursuivait plus son combat contre la maladie le jour de mon anniversaire, m'a annoncé que pour elle, c'était fini. Alors, c'était un drôle de 40e, je dois te confier. Puis, je l'ai suivi, je l'ai accompagné jusqu'à son départ le 25. Donc, moi, là, le 25 janvier, je perdais ma mère. Le 15 février, je vendais l'entreprise. Du coup, je devenais multimillionnaire. Puis, en même temps, je vendais mon bébé. Je vendais cette entreprise qui m'avait bien permis de développer pendant 17 ans. Alors, c'était un choc émotif important. Alors, j'ai décidé que je prendrais un 6-7 mois pour tomber sur mes pattes. Puis,
surtout que une mère, c'est toujours important, central dans nos vies.
Ouais.
Mais avec ton background, ça l'était encore plus parce que tu viens pas d'une famille riche ou de la classe moyenne.
Non, pas du tout.
Tu viens d'une famille extrêmement pauvre et ta mère était ton exemple de résilience, de travail acharné.
Non, c'était un départ difficile.
Ton souvenir d'enfance là, le plus vibrant, tu dirais, le plus difficile peut-être de cette époque-là, justement, où
le
ta mère...
Difficile, ça va rester émotif, là, mais le plus difficile, c'est certainement ce soir où ma mère a fait une tentative de suicide. Et c'est moi qui l'a constaté, en fait. C'est moi qui s'est rendu compte que ma mère était plus vraiment dans son corps et que j'ai dû appeler l'ambulance. Alors, j'ai tout juste 14 ans. J'ai un petit frère de 4 ans qui pleure parce que le père crie dans la maison comme un fou parce que ma mère a tenté de s'enlever la vie. Donc, lui, il pense que la police va l'arrêter. Alors, il y a un drame dans la maison. Moi qui appelle l'ambulance. C'était un souvenir douloureux, ça. C'est un souvenir douloureux. Puis, je me rappelle aussi le retour de ma mère suite à cet incident où elle et moi, on a fait un pacte. Désolé.
Mais non, écoute.
Même rendu à mon âge, ça reste encore émotif. Elle et moi, on a fait un pacte et ce pacte, c'était de ne jamais se lâcher. Donc, qu'elle, de son côté, ne tenterait plus jamais un truc pareil et que moi, de mon côté, je serais toujours avec elle pour tenter de la sortir de la misère et de nous sortir de la misère. Et tout. Alors, quand je suis arrivé jeune adulte, pour moi, c'était assez important de rapidement prendre ma place sur le marché du travail puis d'avoir un revenu considérable pour...
Toi, ton but, c'était de faire de l'argent?
Oh oui, moi, c'était clair qu'il fallait que j'aie des sous pour pas dépendre de l'argent comme ma mère. Ma mère travaillait 7 jours sur 7. Elle faisait littéralement, elle, pour vrai, 80 heures semaine, donc deux emplois de 40 heures qu'elle occupait à temps plein. Donc,
ton père?
Mon père biologique, je l'ai jamais vraiment connu. Puis cet homme que je parlais, c'était le beau-père.
Ton beau-père,
lui, était chauffeur de taxi. Et il buvait à peu près, il était alcoolique, alors il buvait à peu près tout ce qui rentrait dans la maison comme argent. Alors, c'était assez pénible. Là. Donc, ces années-là, ça a été difficile.
Est-ce qu'il y avait de la violence à la maison?
Oui, beaucoup de violence. Particulièrement...
Est-ce qu'il battait ta mère?
Aussi, oui. Alors, physique et surtout psychologique.
Ouais.
Donc, physique, ça l'a con à dire, mais on oublie rapidement une bonne claque, entre guillemets, mais les mots, ça détruit. Ça détruit la confiance, ça détruit l'estime de soi, ça mine longtemps. Ma mère a été blessée toute sa vie par la suite, alors...
Toi, est-ce qu'il te battait aussi?
Non. Non, il s'en est pas pris. Il m'a attaqué physiquement, psychologiquement aussi, forcément, parce que ma mère me préférait souvent à lui. J'étais son préféré, forcément. J'étais celle qui avait un peu de bon sens. Mon jeune frère était trop petit.
Ouais.
Alors, donc, ma mère m'amenait souvent comme sujet de conversation dans le débat. Puis bon, donc j'encaissais les coups. Alors, il m'a dit toutes sortes de conneries. Mais ça forge le caractère, je dirais. Puis ça forge aussi une certaine carapace, ce qui fait que...
T'as jamais eu envie, toi, de te rebeller?
Oui, à 19 ans.
Contre lui, là, c'est-à-dire physiquement même, parce que
j'ai pas le physique de ça. Hein. Moi, je suis tout petit. Lui, il était assez quand même imposant. Puis quand t'as 15 ans, puis t'es petit, tu cherches pas nécessairement la provocation physique.
Ouais.
Puis ma mère, qui est dans ces situations-là, toujours de protéger la famille. C'était complexe. Elle a perdu le premier, séparé de ses enfants. Fait qu'il y a bien des histoires que je pourrais vous raconter, Isabelle, sur tout ça, qui fait que pour ma mère, elle, ce qui est important, c'est d'essayer de préserver le semblant d'une famille normale. Alors, donc, c'était pas dans cet espace-là, je vous dirais. On a joué beaucoup à l'hypocrisie familiale pour essayer de couvrir tout ce que ma mère endurait comme sévisme, entre guillemets. Alors, c'était pas dans l'air de l'époque que de physiquement l'affronter, mais à 19 ans, c'est exactement ça.
Ou même d'appeler la police?
Non plus. C'était pas dans cet espace-là. Alors, moi, je me souviens des scènes, là. Écoutez, je me souviens des scènes là, à 3h30 de la nuit, là, où ça se tirait de la vaisselle dans la maison, là. Puis mon petit frère... changeait de chambre, entre guillemets, partait de sa chambre, puis s'en venait se coucher dans ma chambre en pleurant, puis je le prenais dans mes bras, je mettais un oreiller par-dessus sa tête, puis je disais, tout va bien se passer, je suis là. Alors, mais c'est pas tous les jours, vous savez, la violence, là, c'est pas 7 jours sur 7, là, c'est des épisodes qui sont intenses pendant 2 jours, puis là, il y a de la paix, entre guillemets, il y a un silence qui s'installe, parce que là, les deux veulent pas se parler, puis après ça, on s'excuse, il pleure à quatre pattes, il recommence, OK, je recommencerai plus, puis la promesse de jamais recommencer, puis il est fin pendant 3 semaines, puis là, tout va bien pendant 3 semaines, le paradis revient, l'espoir renaît, tout est beau, puis tout à coup, boum, une autre chute, et on recommence. Alors, c'est sur une période d'une année, il y a peut-être 5-6 épisodes très violents.
Mais les enfants qui grandissent là-dedans deviennent hyper vigilants.
Ben voilà, les enfants qui grandissent...
Comme une espèce toujours de crainte.
Ben, toujours de crainte, puis une certaine forme aussi de, je dirais, un bris de l'idéal, tu sais, dans le sens qu'on se dit, c'est donc pas vrai ces histoires qu'on voit dans les films où les belles familles, tout le monde s'aime, tout le monde est beau, tout le monde est fin, puis on se parle pas de ça entre nous autres vraiment quand on a 10-12 ans, tu sais. Fait, donc on pense que c'est comme ça partout aussi, tu sais, que chez les voisins aussi c'est cool, mais qu'eux autres aussi le soir, le bonhomme et la bonne femme, ils se tapent sur le nez, fait que on finit par croire qu'il y a un désenchantement autour. Alors c'est... Moi, je sais pas trop pourquoi j'ai... Je me suis pas trop miné l'esprit avec ça. Alors, j'ai toujours gardé espoir. Puis j'ai été peut-être, parce que ma mère me confie quelque part cette mission de prendre soin de la famille, de notre petit cocon à nous trois. Alors, j'ai rapidement shifté dans un mode qui s'appelle, ben, ça arrive, puis on va passer à travers, puis on... Un jour, je ferai assez d'argent pour la sortir de là.
C'est ça. Mais c'est devenu ça, la mission.
C'est devenu là, même. C'est comme ça que ça a commencé, en tout cas pour moi. Là.
Ouais. En étant l'aîné aussi, donc la responsabilité, tout ça, puis ça a donné un homme d'affaires qui a fonctionné, qui a été millionnaire, multimillionnaire, qui aujourd'hui, donc, donne quelques conseils. On va y venir tout de suite après cette pause. Je suis en compagnie de Serge Beauchemin. Restez là, tout le monde. Je suis en compagnie de l'entrepreneur Serge Beauchemin, une figure importante de notre Québec Inc. J'aurais envie aujourd'hui juste de faire une parenthèse, étant donné qu'aujourd'hui on vient d'apprendre ce qui se passe chez Bombardier, c'est-à-dire qu'on vient de mettre une croix là, sur la division avions commerciaux. Beaucoup d'emplois en jeu, on rassure tout le monde aujourd'hui. N'empêche que, est-ce que d'un point de vue d'affaires, Serge, c'était ce qu'il fallait faire?
Ah, c'est sûr que des fois, il y a des décisions difficiles à prendre dans l'affaire, puis il faut avoir le courage d'y prendre. Je pense que dans le cas de Bombardier, on pourrait passer la prochaine heure à discuter de toutes les décisions passées qui ont mené à cette situation aujourd'hui. Puis évidemment, comme une game de hockey, c'est toujours facile de parler de la game après la game. Que quand la game se déroule, quand t'es dans le feu de l'action, des fois, il s'agit de prendre une décision qui s'avère être mauvaise, mais au moment où on la prend, c'est pas de mauvaise, c'est la bonne.
Tu sais, mettons là, qu'à l'époque, là, Pierre Beaudoin va devant les Dragons pour présenter son projet de C-Série. Toi, tu mets-tu du cash là-dedans?
Certain. Oui? Ben oui, je trouve que c'était un beau projet, cette époque-là, puis c'était visionnaire, c'était ambitieux, c'était... Puis on était fiers ici au Québec d'aspirer à créer ce type d'appareil sur la planète, de prendre notre place planétaire dans un domaine qui est important,
Mais c'est tout en affaires, tu sais. Puis si c'était une science exacte, on lirait le livre, puis on serait tous riches.
Ben, c'est ce que je dis tout le temps.
Mais en même temps, il faut savoir, puis c'est ça le flair d'un entrepreneur, puis je pense que c'est ça aussi que tu dis à tous ceux que tu formes puis que tu coaches, c'est qu'à un moment, il faut savoir arrêter. Puis c'est pas évident de savoir quand est-ce que tu tires la plug d'une mauvaise décision d'affaires. Tu t'embarques, c'est une bonne idée à la base, puis à un moment donné, ça devient une mauvaise idée.
Ben, c'est exactement, c'est pour ça que je dis que c'est facile de juger après coup. Là. Toutes les histoires d'affaires, on est capable de dire « Ah, ça c'était bien, ça c'était pas bien », mais c'est parce qu'on connaît les outcomes. Mais quand on prend ces décisions-là, le jour où on prend la décision, on connaît pas l'avenir. Et le jour où on prend cette décision-là, on est convaincu que c'est la bonne. À moins d'être un peu con, là, puis jouer ça avec un 25 sous qu'on flippe dans les airs, ce que pas personne fait avec des entreprises comme ça. Alors au moment de prendre ces décisions-là, on a analysé le marché, on a fait nos devoirs, on a fait nos études, on est convaincu que c'est la bonne, on la prend. Après coup, ben, on se rend compte que un an, deux ans, trois ans après, le contexte a changé ou des choses qu'on n'a pas bien contrôlées, pas bien prévues se produisent, puis boum, on l'a sur le nez.
Tu as lancé une plateforme Alias Entrepreneur, justement, où tu donnes des trucs, des conseils pour les entrepreneurs. Qu'est-ce que tu dirais là, qui sont les points les plus importants pour se lancer en affaires puis d'être capable de rester en affaires? Ben, tu peux te lancer, là.
Je dirais le point le plus important est celui qui peut-être n'est pas encore assez véhiculé, mais c'est de bien comprendre que l'entrepreneuriat, c'est d'abord un job d'aider les autres. T'sais. Un entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui est capable de spotter un problème pour une masse de gens. Puis il y a l'adéquation il y a une masse de gens qui partagent un problème, mais pour lequel ils sont prêts à consacrer des ressources. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir avec des super idées, je dirais sociales. Je veux régler le problème d'anxiété chez les enfants. J'aimerais aider les gens à mieux dormir la nuit. J'aimerais ça pouvoir permettre à des gens d'apprendre rapidement puis d'avoir un meilleur comportement à l'école. Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui spotent des problèmes, mais des problèmes pour lesquels, quand on se questionne comme faut, des problèmes pour lesquels, techniquement, les gens sont pas encore là ou prêts à consacrer des ressources. Donc, des ressources, je parle d'argent ou ultimement du temps pour régler ce problème-là. Moi aussi, j'aimerais respirer de l'air pur à tous les jours, par exemple. Ben, je ne vais pas m'abonner demain matin à un service de filtration d'air que je vais me rentrer dans le nez puis je vais payer 100$ par mois pour respirer de l'air pur. Ça n'arrivera pas.
T'sais. Tu pourrais, si t'es vraiment maniaque
sur
l'air.
Je pourrais,
Il y en a qui en vendent, si ça existe.
Oui, ça se vend même en canne, en canne de conserve. Il y a quelqu'un qui vend de l'air de la Colombie-Britannique puis des rocheuses en canne sur eBay. Mais toujours est-il que on peut tout chercher la vertu, mais ultimement, une bonne idée d'affaires, c'est quelqu'un qui a trouvé justement un problème ou quelque chose qui peut faire mieux que ce qui existe actuellement sur le marché. Donc, aider les autres, c'est la base chez les entrepreneurs.
Mais après, il y a l'argent. L'argent, on s'entend-tu, c'est le nerf de la guerre quand même en affaires?
Oui, l'argent, c'est la conséquence. T'sais, pour moi, je pense, j'ai toujours dit que l'argent, c'est le résultat d'une bonne transaction. Parce que en fait, l'argent, ça vient d'un vieux concept qu'on a inventé il y a 10 000 ans. T'sais. Donc, il y a 10 000 ans, on faisait du troc. Et troquer, ben, ce n'est pas toujours pratique. Alors, on a commencé à inventer, à utiliser des monnaies d'échange qui étaient des coquillages, puis les pierres précieuses, et ainsi de suite. Alors, donc, l'argent, c'est la conséquence d'une transaction de deux personnes. Alors, ce n'est pas le but en affaires. Si le but en affaires, c'est de faire de l'argent, bien là, utilement, on scrape toutes les valeurs, puis on va s'en aller juste sur ce qu'on peut faire le maximum d'argent au détriment de l'environnement, au détriment...
C'est quoi la valeur la plus importante pour Serge Beauchemin en affaires?
La cohérence, le respect. La cohérence de ses actions. Ben, la cohérence de ses actions, on ne peut pas dire à ses employés que vous êtes le capital le plus important de l'organisation puis pas les traiter adéquatement, pas les payer adéquatement, pas créer pour eux un climat et un environnement de travail satisfaisant dans lequel ils peuvent s'épanouir, ils peuvent se réaliser. Être incohérent, c'est dire à ses clients qu'on est là pour le long terme puis prendre des décisions de court terme, choisir des matériaux qui durent pas, choisir des systèmes ou des solutions qu'on sait déjà qui vont être périmées dans 2-3 ans. Être incohérent, c'est ça pour moi. Être incohérent, c'est de faire impunément. Faire de façon, je dirais, légère. De faire les affaires de façon gourmande, dans le sens de faire trop de profit. Je respecte la notion du juste profit. Le juste profit, c'est d'être capable de prendre un profit adéquat par rapport à ce que vous faites comme opération, que ce que vous faites dans le marché. Mais quand on est rendu qu'on prend trop de profit, ben là, quelque part, il y a quelqu'un qui est exploité.
Il nous reste 30 secondes, mais je suis obligé de revenir sur Bombardier. Est-ce qu'ils ont été trop gourmands?
Je pense pas qu'ils ont été trop gourmands. Je pense que Bombardier, ça va être une histoire difficile à analyser parce qu'évidemment, d'un côté, on parle de financement qu'ils ont reçu puis l'argent qu'ils ont mis dans les poches et tout ça. Là, on pourrait jaser de ça big time, mais je suis pas sûr que c'est que ça, la chute de Bombardier. Je pense que ça, c'est une des virgules dans le paragraphe, là. Mais il y a beaucoup d'éléments dans cette histoire-là et je suis convaincu qu'il y a des gens beaucoup plus expérimentés que moi qui vont en faire une bonne analyse.
Merci beaucoup, Serge Beauchemin.
Avec grand plaisir.
Ah, oui. Sans filtre, numéro 2 avec Serge Beauchemin, éventuellement.
Ben, je souhaite bien, quand tu veux.
Merci beaucoup, Serge. Merci pour ce beau témoignage, d'ailleurs. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. C'est une grosse journée. Manquez pas notre bulletin d'information, entre autres sur Bombardier. Puis nous, ben, on vous donne rendez-vous demain, même heure, même poste. Bonne journée, tout le monde.